L'art oratoire est un art au service de la circulation des idées dans le monde des hommes. Et il fait de chaque orateur un tuyau, un lieu de passage d'une idée vers un public. D'une idée vers un public.
Un zap.
Je m'appelle Alexandre Zermati et je vous propose tous les mois au travers de ce podcast de partir à la rencontre d'une personnalité inspirante. J'ai eu la chance d'assister il y a quelques années à une conférence de Stéphane André sur l'art oratoire. Alors cette conférence m'a marqué et c'est ainsi que j'ai contacté Stéphane André pour qu'il soit l'invité de ce nouveau numéro d'ASAP. Dans ce podcast, il va nous expliquer ce qu'est l'art oratoire, en quoi cela consiste, quels en sont les principes fondamentaux, qui sont les bons orateurs de notre temps et quelles sont les bonnes ressources ou les bonnes lectures à avoir sur le sujet. Vous allez voir, c'est un podcast passionnant. Vous retrouverez tous les liens menant vers les ressources évoquées pendant cet épisode dans les notes de l'épisode. Je remercie Stéphane André de s'être prêté au jeu et je lui laisse tout de suite la parole.
Je m'appelle, vous l'avez dit, Stéphane André. Je suis professeur d'art oratoire et fondateur d'une école d'art oratoire dont je suis maintenant devenu le directeur pédagogique. J'ai une relation assez particulière que je n'aime pas citer trop fréquemment parce que ça a l'air de trop parler de soi, je trouve ça un peu intime, mais quand j'étais petit, je bégayais. Et comme par hasard, comme c'est arrivé à beaucoup d'autres, j'ai voulu faire du théâtre. C'est curieux comme à chaque fois, quand on a une difficulté, la résilience qu'on a vis-à-vis d'elle conduit quelquefois à se choisir une activité qui va traiter de cette difficulté et du coup faire décoller et devenir le spécialiste finalement du handicap que vous aviez. C'est un peu ce qui m'est arrivé. Et ça donne à ma relation à la parole en public quelque chose d'assez passionnel. Et ensuite, eh bien, j'ai voulu faire du théâtre et j'ai dérivé à partir du théâtre, grâce à l'ESSEC, par laquelle je suis passé, grâce à l'École supérieure de sciences économiques et commerciales. Je suis rentré dans ce monde de l'entreprise et en même temps, j'ai été comédien très peu de temps, puis metteur en scène d'opéra. Et le fait d'être professionnel dans les deux monde, celui de l'entreprise et celui du spectacle, m'a amené à construire quelque chose qui est entre les deux et qui est une technique d'art oratoire. Et je suis devenu professeur d'art oratoire. Ça fait maintenant presque 50 ans.
Je suis professeur d'art oratoire.
Toutes les cultures ont, à un titre ou à un autre, abîmé la nature. Il n'y a pas de culture parfaite. Et dans la confrontation avec la nature, toute culture crée des dégâts. La nôtre a spécialement créé des dégâts sur le versant acteur, mais elle a développé énormément de choses chez nous, versant auteur. La culture française est un phare dans le monde encore aujourd'hui. On enseigne Flaubert dans toutes les universités dans le monde, n'est-ce pas ? Donc versant auteur, nous avons versant intellect, nous avons une magnifique culture. En revanche, versant acteur, versant mise en jeu de l'oral, nous avons plutôt une culture catastrophique. Nos enfants ont appris la peur de parler en public.
Nos enfants ont appris la peur de parler en public.
Alors, il y a des grands exemples, mais je vous ai dit que ça fait 47 ans que je travaille. Il y a des grands exemples, pour moi, qui sont vraiment des figures de l'histoire maintenant. Et puis, il y a des exemples plus récents. Mais figure de l'histoire, c'est toute ma jeunesse. C'est le général de Gaulle, qui était un immense orateur, que les jeunes qui sont aujourd'hui, ou qui sont peut-être à l'écoute de ce que je suis en train de dire, aillent chercher sur Internet, vous verrez des discours de Gaulle de l'époque, dans le style gaullien. De Gaulle, aujourd'hui, ne parlait pas dans le même style, mais il aurait la même technique. Il faut apprendre à différencier ce qui est de l'ordre du style et de la technique, c'est une autre question. Et plus près de nous, Mitterrand était un grand orateur, Obama a été un grand orateur. Monsieur Macron, à l'époque de la campagne présidentielle, a été un orateur, je dirais, dans le bas du spectre. Ce n'est pas un grand orateur. Mais au moins pendant la campagne électorale, chose qu'il a un peu perdue ensuite. Ça a été un des meilleurs orateurs de la campagne. Il était dans les canons de l'art oratoire, en n'étant pas très puissant, mais il avait des qualités d'orateur. Voilà quelques exemples pour vous donner, en nous rapprochant d'aujourd'hui, alors que d'autres orateurs, qui étaient des vrais cerveaux, mais qui avaient tout l'inverse de ce qu'il faut faire quand on parle en public, des gens comme Rocard, des gens comme Seguin, des gens comme, aujourd'hui, comme Jean-Louis Borloo, des gens comme Villepin, sont des orateurs qui n'ont pas fait le travail qu'il fallait et qui tous physiquement sont déficients quand ils prennent la parole en public. Et par conséquent, la sanction est là. Ils n'ont pas été présidents. Un bon orateur, ce qui est le plus apparent, ce qui est le plus visible, qui le distingue des orateurs médiocres, c'est la verticalité. Mais ce n'est pas seulement se tenir debout, et ce n'est sûrement pas se tenir droit. Demander à un enfant de se tenir droit, d'abord, ce n'est pas flatteur pour lui. Se tenir droit, ce n'est pas un projet gratifiant. Et puis, se tenir droit, c'est un système d'appui qu'on met en place. Le système d'appui, c'est un système inerte, donc ça n'a aucun intérêt. Donc, cette verticalité ne s'acquiert pas comme ça, elle se travaille, mais en tout cas, on peut repérer que De Gaulle, Mitterrand, Tony Blair, Obama, Macron en campagne, c'était les verticaux. Borloo, toujours relaxé, avachi, Rocard, complètement courbé sur sa table, Fabius également, voûté, souffrant d'ailleurs d'une scoliose, mais on peut tricher avec sa scoliose pour apparaître tout de même vertical. Tous ces orateurs-là qui sont voûtés se sont plantés. Alors que, versant hauteur, au niveau intellectuel, veux-je dire, ils auraient pu devenir présidents. Seguin, Fabius, Rocard auraient pu être des présidents de la République. Ils avaient la capacité intellectuelle, pas physique. Parce que ce n'étaient pas des orateurs, ils manquaient de verticalité.
Parce que ce n'étaient pas des orateurs, ils manquaient de verticalité.
Il y a également un point qui est moins apparent, mais qui est le plus important, parce que c'est le premier, en termes de processus de mise en place de la technique, c'est le regard. Le regard qui est, puisque je vous regarde en ce moment, vous qui m'interviewez, le regard est le seul moyen pour moi de pouvoir être en prise sur la complexité de votre être m'écoutant. Et ainsi, cette complexité de votre être m'écoutant peut être absorbée par mon regard dans ma propre complexité et mon cerveau s'en débrouille. Pas moi, mais mon cerveau. Vous voyez, donc, c'est très important quand on parle en public d'avoir ce regard qui nous permet de maintenir la relation cerveau à cerveau avec le public. Et vous voyez que là, ça passe par une relation d'abord corps à corps, puisque le regard, c'est du physique. Vous voyez ? Et ce regard va amener l'orateur à une vraie verticalité, pour peu qu'il soit motivé par un intérêt décidé pour celui auquel on parle, même si ce n'est pas votre cas, monsieur, c'est quelqu'un que je n'ai pas du tout envie de rencontrer. On a le public qu'on a, on doit systématiquement, quand on est orateur, en charge d'une fonction dans la vie publique, s'intéresser aux gens qu'on a en face de soi, au public qui se trouve là, et c'est le regard. Et enfin, ce qui est très important et consacre l'orateur, c'est la voix. Finalement, ce qui fait naître un orateur, c'est le regard qu'il porte sur la foule, qui, s'il est d'intérêt pour elle, le redresse. Et ensuite, il est prêt, puisque redressé, il a une architecture interne, un vide architectural qui peut faire passer une colonne d'air, il a créé les conditions en se redressant d'avoir une belle voix. Dans une chorale, on ne chante pas appuyé sur la tête du mec d'en dessous ou accoudé sur le voisin. On chante vertical. Ce principe-là, totalement ignoré des politiques et des gens de l'entreprise. Et donc la voix arrive et la voix consacre l'orateur. C'est elle qui porte l'émotion et c'est elle qui porte toute l'influence de la pensée, beaucoup plus que le geste. Un regard, un dos, une voix.
Un regard, un dos, une voix.
L'art oratoire, on connaît, c'est émouvoir et persuader. On entend ces mots partout. C'est la bouteille à l'encre, quoi. Tout le monde connaît ça, c'est émouvoir et persuader. Nous sommes d'accord là-dessus. Je dirais plus précisément que l'art oratoire est un art au service de la circulation des idées dans le monde des hommes. Et il fait de chaque orateur un tuyau, un lieu de passage d'une idée vers un public. Un orateur est un lieu de passage. Il faut garder cette position de modestie parce que trop souvent, l'orateur, et ça on l'entend beaucoup dans le monde des avocats, la Berryer notamment, un orateur est un monsieur qui fait son show, qui fait une exhibition. Et je ne nommerai pas ici certains orateurs, professeurs d'art oratoire, publiés largement dans certains ouvrages, je ne donnerai pas son nom, qui fait des numéros en public, qui fait des numéros d'acteur, et qui sert plutôt sa personne qu'il ne sert une idée. Voyez, donc c'est vraiment cette modestie de l'orateur et se concevoir comme un lieu de passage pour monter à une notion très importante, c'est l'incarnation. Alors, je vais bien persuader et convaincre, mais l'idée, c'est que j'incarne une idée. Et cette incarnation fait que, quand je la porte, on oublie ma personne, les gens dans la salle ne pensent qu'à l'idée que je développe, et finalement, ce qui est sur scène, ce n'est pas un orateur, c'est une idée. Il se trouve qu'elle est incarnée parce qu'elle passe par l'oral, mais c'est une idée qui est sur scène. Ce n'est pas la personne d'un orateur.
Mais c'est une idée qui est sur scène.
Il n'y a pas de truc. Il y a un travail aussi difficile que quand on apprend l'équitation, quand on apprend la danse classique ou le chant lyrique. C'est un art, et je vous dis ça parce que à Rome, l'art oratoire avait sa muse, qui n'est pas la même que les deux muses du théâtre, comédie, tragédie, mais il avait sa muse. C'était donc considéré comme un art. Or, il n'y a pas d'art sans technique. Il faut qu'il y ait un travail technique. Je vous ai, dans cet entretien, parlé du regard, du dos et de la voix. Une fois que j'ai dit ça, il y a un boulot monstrueux à faire. Alors, je peux vous dire, essayez de plus regarder votre public, essayez de vous tenir un peu mieux, essayez d'avoir une meilleure voix. Et puis, de vous faire un peu plus confiance dans le public, et de ne pas chercher la confiance en vous. Votre confiance, la confiance en vous, vous ne l'aurez jamais. Je ne peux pas monter en scène devant 100 personnes en me disant « Je suis sûr de mon résultat, ça va bien se passer. Quelle prétention j'aurai ?» Je ne peux pas. Donc, je n'ai pas confiance en moi. Mais je dois décider la confiance dans le public. Le public est un partenaire. Louis Jouvet l'a dit. Quelle confiance il faut avoir dans le public ? À un autre moment, dans son cours, il dit « Il faut aimer le public. » C'est le « il faut » qui m'intéresse. En vie publique, on peut décider de ses sentiments et réellement les ressentir. En vie privée, on ne peut pas. On ne peut pas décider de tomber amoureux d'une femme quand on ne l'est pas. En vie publique, non seulement on peut, mais on doit décider de ses sentiments. Je dois décider d'aimer le public. Aimer au sens de la vie publique, pas de la vie privée, c'est-à-dire de m'intéresser constamment à lui, de ne jamais le lâcher, soit du regard, soit de l'oreille, de toujours être relié à lui. C'est ça le conseil. Et c'est ce public qui vous fera grandir dans la mission d'un orateur.
Je dois décider d'aimer le public.
Alors, les conseils les plus stupides, là, j'en ai une collection. Balayer le public du regard, c'est faire semblant de regarder. Bon, tant qu'à regarder, autant voir quelque chose. Mais comment regarde-t-on un public ? Là, il y a une technique. L'œil est condamné au singulier. Par conséquent, je peux regarder qu'une personne à la fois. Ils sont 200. Donc, je dois aléatoirement regarder. Mais à chaque fois que je regarde une personne, je la regarde vraiment et je m'y intéresse. Autre conseil, souriez un peu. Il y a des grands orateurs qui ne sourient jamais. Et on sent très bien qu'entre eux et la salle, il y a quelque chose de très fort qui passe. Et ils ne sourient pas. Mais on va dire souriez un peu parce que l'orateur qui se prépare à faire son discours le lendemain est un peu contracté. Alors le directeur communication qui regarde le DG un peu tendu, qui n'est pas content de ses slides et qui est un peu tendu, le directeur communication lui dit souriez un peu. Dans l'état où il est, il va vous faire une grimace. Deuxièmement, c'est peut-être un type dans le style duquel ne figure pas le sourire. Il y a des très grands orateurs qui ne sourient jamais parce que le sourire n'est pas dans leur style.
Il y a quelque chose de très fort qui passe et il ne sourit pas.
Alors évidemment, votre serviteur ne peut pas s'empêcher de donner mention des deux livres qu'il a écrits. Le premier qui s'appelle « Le secret des orateurs » et le second qui s'appelle « L'art du leadership ». Dans lesquels je développe cette technique et les conséquences, les avantages de son application sur le monde de l'entreprise, de la politique, des médias, etc. Je parle aussi beaucoup des médias. Et puis évidemment, quand on s'adresse, comme c'est mon cas souvent, à des dirigeants, quand on parle d'art oratoire à des dirigeants, on parle évidemment de leadership, par la parole. Par conséquent, j'ai écrit ce deuxième livre sur le leadership. Ça veut dire leadership par la parole, évidemment. Je conseille évidemment aussi de lire deux bouquins, dont le titre m'échappe maintenant, mais qui sont publiés chez Gallimard. Deux bouquins qui sont « Les cours de Louis Jouvet pris en sténo » et qui sont absolument passionnants, où on voit, entre les scènes que Jouvet fait jouer dans sa classe d'art dramatique par les élèves, les scènes sont notées en pointillés évidemment, on a les discussions entre Louis Jouvet et ses élèves. Benoît Jacquot, d'ailleurs, a filmé une pièce qui s'appelle « Elvire Jouvet 40 », donnée en son temps au Théâtre Édouard VII. « Elvire Jouvet 40 », un cours particulier de Louis Jouvet dans sa classe sur la tirade d'Elvire dans Don Juan. Et il donne ce cours à une élève et il y a les deux autres comédiens qui jouent Sganiarelle et qui jouent Don Juan qui sont là. Et ce cours a été joué au Théâtre Édouard VII. Et il est donc consigné par écrit dans un petit bouquin qu'on trouve dans la librairie théâtrale qui s'appelle Elvire Jouvet 40. Et Benoît Jacquot a fait une capture, on sait ce qu'on emploie maintenant comme terme, une capture cinématographique de cette pièce. C'est magnifique. Et on voit ce cours de Louis Jouvet. Donc ce texte, si on le trouve, ou le film de Benoît Jacquot. Et en tout cas, ces deux bouquins, chez Gallimard, à la NRF, j'ai pu être exact, mais il y en a un sur la comédie, l'autre sur la tragédie. Et ce sont des cours de Louis Jouvet pris en sténo, il faut les lire. Et puis, je recommande aussi l'ouvrage de Fabrice Lucchini, qui est l'héritier de Jouvet. Il y a les héritiers de Jouvet, et modestement, je m'estime héritier de Jouvet, c'est mon maître à penser. Les héritiers de Jouvet, c'est Jean-Laurent Cochet, grand professeur d'art dramatique, qui a eu dans sa classe Depardieu, qui a eu également Fabrice Lucchini. Et Lucchini, quand il parle du théâtre, eh bien, c'est vraiment la pensée classique, la pensée du théâtre classique, et c'est la pensée de Louis Jouvet. Donc, lisez ce livre qui s'appelle « Comédie française » au pluriel, de Fabrice Lucchini, qui est un livre très intéressant. Et puis, lisez aussi Terzieff, un ouvrage qui s'appelle « Seul et avec les autres », où Terzieff parle de sa pratique du théâtre, où il y a vraiment des choses qui sont extrêmement touchantes et qui peuvent être appliquées par un orateur d'entreprise et par un orateur politique. Mais il faut retourner à nos grands comédiens, il faut retrouver le théâtre classique qui est vraiment la racine de notre culture. Et je suis très touché en vous parlant de tout ça parce que je trouve que c'est touchant et qu'on écrase tout ça et on le néglige alors que c'est toute la force de notre culture.
Il faut retrouver le théâtre classique.
Ne méprisez pas la parole en public comme on l'a trop souvent méprisée en France. L'art de briller en public, ou alors à l'opposé, c'est du vent. C'est vraiment du théâtre au sens négatif du terme. Non, l'art oratoire, respectez-le, pratiquez-le avec humilité. Et pensez toujours quand vous parlez en public que ce n'est pas vous qui êtes en cause. C'est l'idée que vous développez. Et surtout, ne pensez pas à votre image personnelle. Jamais. Chaque fois qu'un acteur pense à son image et qu'il veut briller, il tue le rôle, il tue Molière. La même chose pour vous. Quand vous parlez en public, ne vous demandez pas, si vous appliquez les quelques conseils que j'ai donnés, quelle tête ça vous fait, de quoi vous aurez l'air. Ne pensez pas à vous, mais servez plutôt l'idée et puis pensez à votre public.
Et surtout, ne pensez pas à votre image personnelle. Jamais.